Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
La poésie, ça vous connaît, Axel Sandre, bonsoir.
Oui, bonsoir Richard. Moi, j'adore les poèmes. Et j'aime tellement ça que... Il me semble d'ailleurs qu'un soir, toi et moi...
Oui. Oui, je vois tout à fait l'anecdote à laquelle vous faites référence. Oui. Elle se passe dans un métro.
Et non, avant le métro, moi, en fait, j'arrive à boire gratuitement, tous les soirs, l'été, en traversant les quais. Et je vais voir les groupes de gens et je leur dis, voilà, bonjour messieurs, dames, je vous lis un poème. Si le poème vous plaît, vous me donnez un verre. S'il ne vous plaît pas, dites-moi de m'en aller. Et j'avoue que je suis un petit peu bourré à la fin de la soirée, parce qu'en fait, les gens adorent la poésie. C'est beau, les poèmes.
Pendant des jours, sans arrêt, j'ai chialé comme un gamin dans mon lit. À grosses et lourdes larmes. Je me suis souvenu de ce que ça faisait d'aimer quelqu'un. C'est là que j'ai décidé de ne plus aimer personne. À quoi ça servait d'aimer les gens puisqu'ils allaient mourir? J'en ai parlé au psy, il était navré pour moi. Malheureusement, mon garçon, on ne peut pas décider de ne plus aimer. Je vais te donner quelque chose à lire. Il m'a remis un livre dans lequel j'ai appris que l'amour, c'était physiologique. Rien d'autre qu'un cocktail de molécules. Les phéromones, qui attirent les personnes, le phényléthylamine, qui déclenche des sensations de joie, les endorphines, qui plongent le cerveau dans un état d'ivresse, la dopamine, qui émet un signal de bonheur, etc. Le tout étant relié au cœur, un bout de viande qui tape fort pour nous faire croire que ce sentiment magique émane de lui. Une illusion. Voilà ce que c'était, l'amour. Une illusion qui finissait invariablement dans la douleur. Alors pourquoi s'infliger ça? J'ai donc décidé d'abattre mon cœur.
Ces mots sont d'Axel Sandre, tirés de son roman « Cœur battant », publié en 2018. Axel Sandre, magnétique meuf tornade, qui écrivait des histoires d'écorchés vifs en connaissance de cause, sans oublier jamais d'y ajouter un humour gentiment cinglé pour nous aider à digérer les choses dures à avaler. Ses héros étaient champions d'échecs, psy borderline ou soldats insensibles à la peur. Elle aimait la nuit, les bars à tocard et ses trois Charles, Baudelaire, Darwin, Bukowski. Son vrai prénom était Fidèle, dite Fifi, mais personne ne le savait, ou presque, parce qu'elle s'était choisi un putain de nom d'écrivain. Axel Sandre, en hommage à Axel Rose. Mais faudrait imaginer le chanteur des Guns, dont le front serait marqué d'une croix dessinée avec le contenu des cendriers d'un vieux troquet kabyle de Belleville. Axel, bordel. Depuis l'inaugural et programmatique « Aimez-moi maintenant », paru aux éditions Sarbacane en 2008, on lui doit une petite dizaine de romans drôles et débraillés pour la jeunesse, lisibles selon elle, de 13 à 113 ans. Il lui arrivait aussi, souvent, de déclamer dans le métro des poèmes désarmants d'honnêteté, boules de feu qu'elle balançait comme ça, centrée dans son cuir ou son blouson Harrington, toujours vêtue de noir, cheveux plaqués en arrière, avant de coller à terre parfois un copain qui se marrait, tout en souriant à toutes les filles. Hashes to hashes. Comme je ne sais pas quoi faire du chagrin qui me plombe depuis que j'ai appris sa mort début octobre, à 37 ans, comme Rimbaud, je relis ses romans, ses mails, ses nouvelles publiées dans le magazine Standard ou notre correspondance de cet été, quand elle me disait qu'Axel Sandre n'a pas écrit son dernier mot, quand elle me parlait de deux romans pour les trois prochaines années, en attendant le Goncourt qui lui serait remis un jour, c'est sûr, par Virginie Despentes, en smoking. D'où la nécessité d'une émission portrait par éclat de l'autrice de Dysfonctionnel, avec des lectures, de brefs témoignages de ses proches, des morceaux piochés dans les playlists qui ouvrent chacun de ses bouquins, et l'un de ses passages sur Radio Nova, c'était en 2012, quand elle était venue réinterpréter son poème préféré, signé Bukowski. « Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir, mais je suis trop malin. Je ne laisse sortir que de temps en temps, la nuit, quand tout le monde dort. Je lui dis, je sais que tu es là. » Alors ne sois pas triste, puis je le remets, mais il chante un peu là-dedans.
Je ne le laisse pas tout à fait mourir et on dort ensemble, comme ça, liés par notre pacte secret et... C'est assez beau pour faire pleurer un homme, mais je ne pleure pas. Et vous ? Moi, je ne pleure pas, je me tiens tranquille, je ne veux pas qu'on me voie. Et je cause à mon oiseau bleu, qui ne peut pas tout à fait mourir, puisqu'il s'appelle Axel. Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova, que vous retrouvez tous les dimanches à midi. Axel Sandre, c'est simple, pas de chichi, pas de képi, ça commence comme ça. Voici les deux premières pages de son premier roman, Aimez-moi maintenant, son entrée en littérature, suivi d'un autre extrait de ce même roman sur un petit mec brillant, un peu mytho et plein d'empathie.
Nova Book Box, parfois une page suffit.
Un jour, on le tuera, fils de pute, il m'avait dit. On avait 10 ans. Lui, c'était Tom. Et le fils de pute, c'était Monsieur Franck M. Monsieur Franck M était éducateur au foyer. Il s'occupait de nous mettre dans les familles d'accueil et puis aussi de nous mettre la main au cul. Tom, il avait du mal avec ça. Moi, ça allait, parce que quand Monsieur Franck M était avec moi, j'étais pas là. Dans ma tête, je veux dire. C'était comme si quelqu'un d'autre prenait ma place et que je perdais connaissance. Comme si j'avais plus conscience de moi. J'avais parlé de ça à Tom. Suffit de fermer les yeux et de t'en aller. Je lui avais dit. Mais il n'a pas réussi à le faire. Il avait essayé, mais ça n'avait pas marché. Alors ça l'a rendu furax. C'est pas possible, il a gueulé. C'est que des conneries. Il a serré les poings. Avoue que c'est que des cracks, il a dit. Avoue ou je te casse les dents. Excuse-moi, j'ai dit. Il a serré la mâchoire. C'est que des cracks. J'ai menti. C'est pas que j'avais peur qu'il me cogne. Je me serais pas laissé faire. C'est juste que Tom, je l'aimais bien. Je voulais pas qu'on soit fâchés. Et surtout pas à cause de Monsieur Franck M. J'étais assis dans le bus, et puis, il y a eu cette dame, la soixantaine fatiguée, qui s'est assise à côté de moi. Elle m'a souri, m'a parlé de la chaleur qui lui faisait des misères, et elle s'est mise à évoquer cette brise unique qu'il y avait en Grèce, son pays d'origine. Alors, je lui ai dit que moi aussi, j'étais d'origine grecque. Et si vous saviez comme ça l'a rendue heureuse ! Ses yeux n'en pouvaient plus de briller. J'ai même cru qu'elle allait pleurer de joie. Et puis, elle m'a pincé les joues avec affection et elle a commencé à me parler en grec. J'avais oublié à quel point c'était facile de rendre les gens heureux. En plus, ce n'était pas un vrai mensonge. Il n'y avait aucune preuve que je sois grec, mais étant donné que je n'avais aucune information sur d'où je venais, il n'y avait aucune preuve non plus que je ne sois pas grec. J'étais autant grec que je ne l'étais pas. C'est ce que j'appelle un bobard agnostique. Je l'ai refait le lendemain. Je suis monté dans le bus et je me suis assis à côté d'une femme qui ne demandait que ça. Les gens seuls et qui ont envie de parler, on les remarque tout de suite. Et puis les jours d'après, j'ai continué, je passais d'un bus à un autre. Si quelqu'un était originaire de quelque part, je l'étais aussi. Grâce au manuel de géographie que j'avais lu, je pouvais parler des villes comme si j'y avais grandi. J'étais même capable de citer des noms de rues. Et si j'avais vraiment pas la tête qu'il fallait, comme avec un chinois par exemple, je pouvais lui dire que j'avais passé 2 ans dans son pays quand j'étais enfant. J'étais grec. Italien, portugais, j'avais vécu au Mali, en Chine, au Cameroun, j'étais juif, arabe, gitan. J'étais tout le monde et personne à la fois.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Une histoire sensuelle et sans suite, ça fait crack, ça fait pchit, crack, je prends la fille, et puis pchit, je prends la fuite. Elles en pincent toutes pour ma pomme cuite, je suis un crack pour ces petites. Crac, les v'las sur le dos, et moi, chut, j'en profite. Leur petit cœur palpite, tandis qu'elles s'excitent, qu'elles s'envoient au zénith. Elles sont gonflées, ouais, mais très vite. Sensuelle et sans suite, ça fait crac, ça fait fuite. Crac, je prends la fille, et puis pst, je prends la fuite. J'aime jouer avec la dynamite. Quand ça craque, ça fait fuite. Crac, j'allume la mèche, et puis leur petit cœur palpite, tandis qu'elle s'excite, qu'elle s'envoie au zénith. Ces histoires sensuelles et sans suite, ça fait crac, ça fait huit. Crac, je prends la fille, et puis huit, je prends la fille.
Le cœur d'Axel Sandre bat toujours parce que les doux ont la vie dure. Et justement, Axel, elle écrivait l'histoire des doux, c'est-à-dire des cassés, des bizarres, des dingues, de tous ceux qu'on met sur le côté de la vie. Donc les cœurs des doux battent pour Axel.
Merci Thibaut Bérard. Les doux ont la vie dure. Poursuivons notre hommage à Axel Sandre avec deux extraits de son roman Dysfonctionnel, publié en 2015 aux éditions Sarbacane. C'est l'histoire de Fidèle, alias Fifi, alias Bouboule, qui grandit dans une famille donc dysfonctionnelle. Papa enchaîne les allers-retours en prison, maman à l'asile. Mais malgré le quotidien difficile, Fidèle vit des moments de joie entouré de ses six frères et sœurs aux prénoms panachés, Alison, J.R., Dalida, Jésus. Et cette tribu, on la trouve au bout du monde, nom de ce bar à tocards que tient le père dans Belleville.
Putain, où sont mes lunettes? J'ai encore perdu mes lunettes. Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi?
Une autre fête sympa chez nous, c'était le mercredi décembre. Le mercredi décembre est une fête catholique qui se déroule le lendemain de Mardi Gras. Tous les enfants attendent Mardi Gras avec impatience, mais nous, on savait ce qui nous attendait le lendemain. Le mercredi des cendres marque le début du carême, qui durera 40 jours pour se terminer le jour de la plus importante fête de la chrétienté, Pâques, la résurrection du Christ. Le dimanche suivant la fête de Pâques, chaque église brûle des rameaux et les cendres de ces rameaux, une fois bénis, serviront pour le mercredi des cendres de l'année suivante. Étant donné que c'est un jour de pénitence, les fidèles se rendent à leur église pour assister à une célébration. Là, le prêtre proclame l'évangile et l'homélie, puis il leur trace une croix sur le front avec la cendre en déclarant « Homme, souviens-toi que tu es poussière
et que tu retourneras en poussière.
L'imposition de cendres au front du pénitent étant une invocation symbolique de la mort. Et c'est comme ça que nous, les enfants, tous les mercredis des cendres, on se baladait dans le bar avec une croix en cendres sur le front. La fête dans notre bar, qui s'appelait Au bout du monde, c'était pas toujours la rigolade. Beaucoup plus tard, j'allais régulièrement voir maman à l'asile. Elle s'était calmée, surtout grâce aux médicaments dont on la gavait. Son médecin, une sorte d'Einstein sans moustache, m'avait reçu dans son bureau pour me dire, la mine désolée, « Il va falloir songer à l'internement de longue durée. » Il avait dit « longue durée » pour éviter le mot « définitif », mais je préférais voir maman comme ça, dans sa chambre d'hôpital, assise paisiblement, en train d'écouter de la musique classique, plutôt que comme une démente à la maison le jour où on l'avait fait interner. Je m'asseyais sur son lit. Tu peux bien me la raconter encore une fois, cette histoire de la lettre à Élise ? Écoute et vois, ma fidèle. Elle mettait la musique en marche, et le temps remontait de 10 ans, lorsqu'elle me racontait cette belle histoire dans sa chambre à la maison. Ensuite, on écoutait l'Ave Maria avant de faire un « Je vous salue Marie » à genoux. Puis maman me demandait de partir pour écouter seul l'Adagio d'Albinoni. Le jour du mercredi des cendres, j'allais lui rendre visite avec une croix de cendres sur le front. Mais je ne la faisais pas faire à l'église en me baladant ensuite dans la rue, non. Je me la faisais moi-même. Avant d'aller à l'hôpital, je vidais tous les cendriers du bar dans une petite boîte, puis face au miroir des toilettes de l'hôpital, je me traçais la croix. Homme, je disais pour la forme. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Je sortais ensuite dans le couloir avec ça sur le front, entre un gars qui avait un chapeau de Napoléon et un autre qui miaulait comme un chat. Je passais relativement inaperçu.
Nova Book Box, allez, sois chou, lis-moi un bout.
Extrait de Dysfonctionnel, ce roman d'Axel Sandre. En concertation avec la famille de cette dernière, ses proches viennent d'annoncer la naissance du prix Sandre, un prix littéraire qui récompensera un auteur, une autrice, d'un premier roman de littérature jeunesse à destination d'un public de grands adolescents. La vocation du prix Sandre est d'encourager la création et la poursuite d'un parcours artistique dans le milieu de l'édition jeunesse. Le lauréat ou la lauréate sera annoncé le 6 octobre prochain. De quoi laisser libre cours à toutes nos idées folles, fidèle au titre du deuxième roman de l'héroïne de cette émission, dans la playlist duquel figurait cette chanson un peu bouleversante d'Hubert Félix Thiéfen, Les dingues et les paumés, qui remonte à 1982, année de naissance d'Axel Sandre.
Se transforme en bunker à 4h du matin derrière un téléphone. Quand leur voix qui s'appelle se change en revolver et s'invite à calter en se gueulant comme les dingues et les poumées se cherchent sous la pluie. Le
et se font boire le sang de leur vision perdue. Et dans leurs yeux mescales masquant leur nostalgie, ils voient se dérouler la fin d'une inconnue. Ils voient des rois fantômes sur des flippers en ruine, crachant l'amour folie de leur nuit métropole. Ils croient voir venir Dieu, ils relisent leurs lignes et retombent dans leurs bras glacés de baby doll. Se traîne chez les Borgias, suivi d'un vieil écho jouant du rock'n'roll, puis s'enfonce comme des rats dans leur banlieue by night, essayant d'accrocher un regard à leur cône. Et lorsque leur tomba joue à guichet fermé, ils tournent dans un cachot avec la gueule en moire, et sont comme les joueurs courant décapités, ramasser leurs jetons chez les dealers du coin. Les dingues et les poumées s'arrachent leur placenta et se greffent un pavé à la place du cerveau, puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka en se faisant danser jusqu'au dernier mambo. Ce sont des loups frileux au bras d'une autre mort, piétinant dans la boue les dernières fleurs du mal. Ils ont cru s'enivrer des chants de mal d'aurore, et maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale. Les dingues et les paumées sacrifient Don Quichotte sur l'autel enfumé de leurs fibres nerveuses. Puis ils disent à leur reine en riant du boycott, la solitude n'est plus une maladie honteuse. Reprends tes valkyries pour tes valseurs mazo. Mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar, et cet ange qui me gueule, viens chez moi mon salaud, m'invite à faire danser l'aiguille de mon radar.
Le cœur d'Axel Sandre bat toujours dans chacune de ses phrases, dans chacun de ses mots, qui ont toujours, pour moi, battu d'une sorte de pulsation unique, de rire et de larmes à la fois. Et pour moi, il suffit d'ouvrir un de ses livres pour écouter comment il bat son cœur.
Pourquoi le cœur d'Axel Sandre bat toujours? En fait, je ne trouverai jamais une partenaire de soirée, de nuit comme elle, en fait. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui envoyait toujours des trucs, mais à 400 à l'heure, tout le temps. Et en fait, elle, dans son comportement, il y avait des gens... Alors en plus, elle était un très bon radar à con, parce qu'en fait, dans la manière dont elle se comportait, etc., comme elle était très directe, très brute, très instinctive surtout, et que son cerveau tournait à 2000 à l'heure, avec vraiment toujours des idées complètement improbables, qu'elle racontait des choses dont on ne savait pas si c'était vrai, pas vrai, mais qui étaient toujours hyper belles et tout ça, mais qui étaient des fois complètement cinglées. Il y a beaucoup de gens qui s'écartaient un peu, qui se disaient « Oh là !» ou qui la regardaient se comporter avec un sentiment de recul et de retrait. Ce qui pour moi était un très bon indice pour savoir de qui, à côté de qui ne pas rester, en fait, parce que ces gens étaient éteints, quoi, vraiment complètement éteints, alors que Axel, elle avait une tendresse, complètement dingue, mais qui n'était pas forcément visible tout de suite, parce que c'était une tendresse très très rugueuse, en fait. C'était une tendresse vraiment qu'il fallait pas réussir à saisir, parce qu'elle était vraiment insaisissable. Je le dis pour avoir passé des heures et des heures avec elle, et vraiment, elle n'était pas saisissable, en fait. Elle était trop, on dirait bêtement perchée, mais c'était même pas ça, en fait. Elle faisait plein de choses. Elle n'imposait rien. Elle n'a jamais rien imposé. Par contre, elle passait son temps à poser des choses, en fait. Elle posait des petits galets, des petits trucs par terre. Et on les ramassait si on voulait. On y mettait un coup de pied si on voulait. Mais elle était vraiment comme ça. Et elle est dans son écriture aussi, et dans sa manière d'être. Elle avait cette même chose que je qualifie de manière extrêmement pompeuse de poésie martiale ou de martialité poétique. C'est-à-dire qu'en fait, les choses tombaient de manière extrêmement brute, sans du tout, sans aucun filtre en fait. Et à partir de là, on en faisait ce qu'on voulait. Et dans les soirées, quand on traîne avec elle, en fait, je l'ai souvent raconté à des gens qui n'ont pas forcément compris. Mais quand elle se tourne vers toi, Axel, quand elle se tournait vers toi, tu savais jamais si elle allait te mettre une énorme beigne ou t'embrasser. Et elle pouvait le faire d'ailleurs les deux en même temps et les deux avec la même tendresse. Et cette tension permanente rendait sa présence absolument unique en fait.
Merci Clémentine Beauvais et merci François Perrin pour ces témoignages. Un soir de mars 2012, le même François Perrin a pu observer, comme moi, l'arrivée de cette meuf unique, l'arrivée d'Axel Sandre dans les studios de Radio Nova, lors de la toute première saison de cette émission. Pendant 2 heures, à l'occasion de la sortie d'un inédit de Charles Bukowski intitulé « Shakespeare n'aurait jamais fait ça », journal de sa tournée promotionnelle en Allemagne et en France, j'avais réussi à réunir des admirateurs du vieux dégueulasse. Daniel Darc, Philippe Janinada, Wendy Delorme, son premier éditeur français, Raphaël Sorin, et l'un de ses traducteurs, Léon Mercadet. À un moment, Axel Sandre a pris la parole pour nous expliquer avec beaucoup d'humour qu'elle prenait cet événement très, très, très au sérieux.
Putain, où sont mes lunettes? J'ai encore perdu mes lunettes. Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi?
La poésie, ça vous connaît, Axel Sandre. Bonsoir.
Oui, bonsoir, Richard. Moi, j'adore les poèmes. Et j'aime tellement ça que... Il me semble d'ailleurs qu'un soir, toi et moi...
Oui. Oui, je vois tout à fait l'anecdote à laquelle vous faites référence. Oui. Elle se passe dans un métro.
Et non, avant le métro, moi, en fait, j'arrive à boire gratuitement, tous les soirs, l'été, en traversant les quais. Et je vais voir les groupes de gens et je leur dis, voilà, bonjour messieurs, dames, je vous lis un poème. Si le poème vous plaît, vous me donnez un verre. S'il ne vous plaît pas, dites-moi de m'en aller. Et j'avoue que je suis un petit peu bourré à la fin de la soirée, parce qu'en fait les gens adorent la poésie. C'est beau les poèmes.
Axel, vous êtes l'auteur de 3 romans, ouais. Aimez-moi maintenant, Mes idées folles et Échec et but, tous 3 publiés chez Sarbacane. J'ai dit que la poésie, ça vous connaissait. Et vous avez dit que, en fait, vous étiez un peu bourré parce qu'en fait, vous avez fait quelque chose de tout à fait exceptionnel aujourd'hui. Alors, en l'honneur de Bukowski,
alors,
vous avez fait.
Aujourd'hui.
Dites-le nous.
En l'honneur de Bukowski, j'ai commencé à boire de la. En fait, le truc que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de remplacer tous les liquides qui allaient rentrer dans ma bouche par de la bière.
Au seau du lit.
Depuis ce matin. Donc ce matin, j'ai bu de la bière avec mes Choco Pops.
Bravo! Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, ouais.
Ensuite, attends. Ensuite, à midi, j'ai fait une tarte. Et au lieu de mettre 40 centilitres de crème fraîche, j'ai mis 40 centilitres de bière.
Bravo! Ouais, ouais.
Merci à tous. Et ensuite, donc, pendant mon goûter... J'ai fait un chocolat chaud avec de la bière.
Mais oui!
Et après, j'ai pris l'apéro. Bon.
Forcément.
Et j'ai remplacé ma bière par de la bière.
Mais ça, voilà. Et ça s'applaudit
mais,
quand même.
Mais ça s'applaudit. Mais j'ai juste envie de dire un truc, c'est que... la tarte, franchement, c'est pas dégueulasse.
Mais alors, par contre, les Choco Pops...
Par contre, les Choco Pops... Franchement, il faut du courage. Hein. Non, mais vraiment.
Et du courage, vous en avez. Qu'allez-vous nous lire, Axel?
Donc, je vais vous lire un très très beau poème de Bukowski qui s'appelle L'oiseau bleu.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir, mais je suis trop coriace pour lui. Je lui dis. Reste là-dedans, je veux que personne puisse te voir. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir, mais je lui verse du whisky dessus. Et j'avale des fumées de cigarettes. Et les putes et les barmanes et les épiciers ignorent qu'il est à l'intérieur. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir, mais je suis trop coriace. Je lui dis, tiens-toi tranquille, tu veux quoi, hein? Tu veux me fourrer dans le pétrin? Tu veux me foutre le boulon en l'air? Tu veux ruiner les ventes de mes livres en Europe? Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je suis trop malin. Je le laisse venir, seulement parfois la nuit, lorsque tout le monde est endormi. Je lui dis, je sais que t'es là, alors sois pas triste. Et puis je le recache à sa place, bien au fond. Mais je l'entends encore chanter de là-dedans. Je ne laisse pas tout à fait mourir. Et puis nous dormons ensemble, comme ça, lui et moi, avec notre pacte secret. Ça, c'est beau pour faire pleurer un homme, mais moi, je ne pleure pas. Et toi?
Nova Book Box, littérature aléatoire.
Charles Bukowski par Axel Sand, bravo. L'oiseau bleu, titre original, There's a Bluebird in My Heart.
Yes.
Publié très probablement chez Grasset.
Yes.
Vous savez que c'est aussi par ce poème que se termine ce très beau documentaire consacré à Charles Bukowski, qui s'appelle Bukowski, réalisé par John Dillinger.
Eh bien, figurez-vous, Richard, que Bukowski, je l'aime tellement que j'ai décidé de ne plus le lire. Parce qu'en fait, il y a des auteurs, je me dis des fois, si je dois mourir... devoir mourir.
Très tardivement.
Comme nous tous. Mais, en fait, j'ai décidé d'arrêter de lire Bukowski parce que je veux que... Je sais pas quand est-ce que je vais mourir, mais je sais que je ne veux pas que ce jour-là, je n'ai plus à lire de lui. Donc, lui...
Que la source ne se tarisse pas, qu'il n'y ait pas un jour où vous avez tout lu.
Exactement. Et donc, je me rationne. De Bukowski, c'est un livre par an. Il y a que lui qui me fait cet effet-là, lui et Céline et Baudelaire et bien sûr Eric Cantona.
Qu'est-ce qui, quand vous parlez d'effet, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vous touche chez Bukowski?
Bukowski, en fait, il est vrai. C'est de la vérité, de la sincérité, et je n'ai pas envie de me retrouver un jour. Sans cette sincérité-là. Je sais que maintenant, j'ai mis ces livres de côté et je me dis, je ne les lirai plus parce que je ne veux pas. Parce que je veux que sa sincérité à lui, elle me touche tout le temps.
Et en disant cela, vous êtes sincère.
J'espère.
Merci, Axel Sand.
Merci, Richard.
Nova Book Box. Longtemps, je me suis couché de bonne humeur.
Remembering Le cœur d'Axel Sandre bat toujours parce que ses livres font partie de ceux qui méritent de rester. Beaucoup de livres finissent au pilon, mais le temps fait le tri et ceux d'Axel resteront. Il y a dans son écriture une force, une brillance et une grâce qui est celle des plus grands. Et ces textes-là, ils ne se démodent pas. Les romans d'Axel sont comme les chansons d'Amy Winehouse, plein d'amour, de chagrin et d'espoir, plein d'humour aussi. Et ils ont le pouvoir de nous toucher en plein cœur.
Merci, Claudine Desmarteaux. Axel Sandre disait souvent qu'elle a grandi en regardant Les Feux de l'amour sur TF1. Et je dois dire que ça m'est arrivé aussi, puisque ma mère était fan. Cela devait bien ressurgir un jour ou l'autre dans l'un de ses romans. Voici un extrait d'Échecs et buts, sorti en 2010 aux éditions Sarbacane. Un passage dans lequel elle parvient, l'air de rien, à nous mouiller les paupières.
Nova Book Box, particulièrement élémentaire.
Quand les gens répondent au téléphone dans Les Feux de l'amour, ils ne disent pas « Allô ?» Qui est à l'appareil ? Bonjour. Ou quoi de neuf ? Non. Quand les gens répondent au téléphone dans Les Feux de l'amour, ils écoutent quelques secondes d'un air grave, avant d'afficher une moue interloquée et de dire, tout en arquant un sourcil, comment ? Drusilla s'est réveillée du coma ? Ce jour-là donc, et après 5 années passées dans un coma profond, Drusilla se réveillait comme une fleur, maquillée comme une poupée, ses cheveux couleur blond californien accusant un brushing parfait. À voir la drôle de tête que faisait Victor en apprenant la nouvelle, on n'avait pas de mal à comprendre qu'il ne la trouvait pas bonne. Et de fait, le soir où elle était tombée dans le coma, Drusilla était d'abord tombée dans l'escalier, aidée par Victor en personne. Après avoir accroché, Victor s'est caressé soigneusement le menton du bout des doigts. Je dois arriver à l'hôpital avant la police, a-t-il pensé à voix haute en regardant dans le vide, tandis que l'image stagnait sur son visage inquiet, bercé par une musique stridente de violoncelle. Plus tard, tout finirait pourtant par s'arranger, car comme de bien entendu, Drusilla avait perdu la mémoire. J'avais presque 12 ans, et j'étais depuis un moment devenu trop grand pour m'asseoir sur les genoux de mémé. Mais, comme elle y tenait quand même, je basculais légèrement en avant tout en m'appuyant sur mes jambes pour alléger mon poids au maximum. À l'hôpital mémorial de Genoa City, le perfide Victor, entouré par ses amis Nick et Ashley, avait du mal à cacher sa satisfaction face au docteur Scott. Je crois que j'ai tout de suite compris quand je n'ai plus senti son souffle dans ma nuque. Mais je n'ai pas bougé, pas avant la fin de l'épisode. Comme si j'avais pris conscience que c'était la dernière fois et que je voulais la faire durer jusqu'au bout. J'avais des fourmis dans les jambes et dans la poitrine aussi, et c'est seulement aux premières notes du générique de fin que je me suis levé pour aller chercher la gardienne. Le jour de l'enterrement de mémé, le soleil brillait comme un jaune d'œuf au plat dans un ciel bleu foncé. La gardienne, avachie sur une chaise, telle une mama sicilienne qui aurait perdu d'un coup ses 7 enfants, pleurait à gros bouillons, mais on ne savait pas vraiment qui. Parfois, elle s'en mêlait les pinceaux et on pouvait l'entendre bredouiller « Il est mort en excellente santé !» Puis elle se reprenait dans un sursaut et reniflait bruyamment « Elle est morte sans souffrance !» Les autres acquiesçaient avec une mine satisfaite, comme si une mort sans souffrance était tout ce qui comptait, comme si les souffrances de la vie ne valaient rien. Et puis, ils écrasaient leurs joues contre les miennes en imitant des bruits de baisers. « Mon pauvre petit !» qu'il disait en forçant le tragique. « Mon pauvre, pauvre petit !» Moi, je ne me sentais pas pauvre pour un sou. Mémé m'avait bien préparé ça, et pas qu'un peu. Il allait juste me falloir un peu de temps pour m'habituer à plus la voir. Comme il faut du temps aux yeux pour s'habituer au noir.
Vous n'avez plus le temps de lire. Nova chausse ses lunettes et vous ouvre les portes de sa très très grande bibliothèque.
Je t'ai croisé un samedi soir. et j'ai jeté sur ta silhouette une poignée d'épices colorées. Mon but était clair, t'envoûter tout en restant libre moi et libre toi, car le roi de l'amour n'a plus besoin d'esclaves. Adieu, adieu la nuit, adieu tristesse, adieu les larmes. Je ne suis plus celui que tu as connu, plus le même. Oh, bel enfant qui attend. Adieu la nuit, oh, yeah, yeah, yeah. Et le soleil de minuit a brillé pour nous jusqu'à l'arrivée du jour. Alors nous nous sommes séparés, comme déjà saturés des délices du futur. Et j'ai marché seul, guidé par ton ombre, j'ai traversé la ville déserte, encore étincelante, du voyage des rêveurs. Adieu, adieu la nuit, adieu tristesse, adieu les larmes. Je ne suis plus celui que tu as connu, plus le même. Oh, bel enfant qui attend, pleurer. Adieu, tout est fini, adieu les larmes, adieu la nuit. Oh, yeah, yeah, yeah. Je t'ai croisé un samedi soir, et déjà j'aimais l'odeur de ton rire. Et le soleil de minuit a brillé pour nous jusqu'à l'arrivée du jour.
D'Axel Sand bat toujours parce que quand je la rencontrais, elle avait tout le temps mille trucs à raconter, mille choses invraisemblables que des fois on retrouvait dans ses bouquins, mais surtout elle parlait de la vie, d'anecdotes complètement folles qui pour moi me plongeaient toujours dans une profonde perplexité à passer l'amusement. Et en fait, c'est ce doute presque qui va rester éternel. Et j'y pense encore aujourd'hui en essayant de démêler les fils. Généralement, elle racontait tout ça alors qu'on battait le pavé dans la rue, un peu ivre, ou dans des festivals, ou dans des bars. Et récemment, je suis retourné voir dans mon répertoire parce que je me rappelais qu'elle s'était enregistrée elle-même dans mon répertoire et à la place d'Axel Sandre, elle avait noté ne pas pisser, ce qui également me plonge dans une profonde perplexité car je ne sais pas du tout ce qu'elle a voulu dire. Et pour tout ça, moi je la remercie grandement.
Merci Renaud Farras. Adieu tristesse, comme le chantait Arthur H. Adieu tristesse, car Axel n'écrivait pas que des histoires d'écorchés vifs. Pour Feu, le magazine Standard, une revue de culture et mode que j'ai eu la joie de co-diriger dans les années 2000, Axel se fendit de quelques nouvelles assez marrantes, comme celle-ci, par exemple, intitulée « La frite et l'abricot plein ».
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
La frite et l'abricot plein. Samantha faisait partie de ces filles qui voyaient des signes partout.
« Oh, regarde !»
qu'elle me disait en posant une barquette de frites dans le micro-ondes.
« Le temps de cuisson est de 3 minutes et on s'est rencontrés au mois de mars. Le troisième de l'année, c'est un signe !»
Si Samantha n'avait pas un aussi beau cul et si elle ne savait pas aussi bien s'en servir, j'aurais sans doute répondu « Ouais, c'est ta tête que je mettrais bien 3 minutes au micro-ondes. » Mais voyez-vous, cette fille-là avait une merveille de cul. Dorée et satinée. Ni trop ferme, ni trop mou. Et quand elle le remuait avec l'agilité d'une chatte, c'était à pleurer. D'ailleurs, la première fois que je l'ai vue, ce cul m'a fondu le cœur.
All night long, all night, all night. All night long, all night, all night.
Il ondulait sur une piste de danse, moulé dans une jupe argentée. Je l'ai longtemps regardé, devinant sa forme d'abricot plein, salivant sur sa chair charnue. Et puis, quand j'ai dansé avec lui, entraîné dans ses mouvements arrondis, j'ai su qu'il était de ceux qui, lorsqu'ils vous emplissent les mains, vous vident instantanément la tête. Plus tard, sous mes doigts et mes dents, sa couleur est passée du rose pêche au rose endolori. Alors, avant de m'endormir près de lui, je l'ai embrassé pour le consoler un peu.
« C'est un signe !»
a répété Samantha en posant les frites chaudes sur la table. « Ouais, c'est un signe, ouais. » J'ai dit en trempant une frite dans le pot de mayonnaise. « Pour un cul comme ça, moi je vois tous les signes qu'on veut. »
Nova Book Box. Nova te masse la tête avec des mots très doux.
Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now. Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Now all night long you've been drinking your tequila, but now you've sucked your lemon peel dry. So why not get high and good night, ladies, ladies, good night. Good night, ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Good night, sweet ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Bye-bye. Oh, we've been together for the longest time.
Le cœur d'Axel Sandre bat toujours, parce qu'il était impossible de rester indifférent face à cette fille, avec laquelle on parlait peu météo, mais plutôt de poésie dans les bars, d'amour, de rupture, de marques laissées, de secrets, d'écriture et de cicatrices. Parce que ses livres nous crient « Aimez-la maintenant », le cœur d'Axel Sandre bat toujours.
Merci, Séverine Vidal. Et « Good night, ladies », comme le murmurait Louride. Non, car il nous reste encore une lecture à écouter. Précisément, les deux dernières pages du dernier roman qu'Axel Sandre a publié de son vivant, Cœur battant, sorti l'année dernière chez Sarbacane. Deux pages qui me serrent un peu la gorge.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Seule à une table, entourée de trois chaises vides, Colette nous attendait. On s'est assis, elle a pris la parole.
Il ne faut pas être triste pour Jacopo. Seule la mort pouvait soigner la maladie incurable dont il souffrait. Naître en vie, mais sans espoir.
Elle avait raison, on le savait.
L'espoir,
elle a continué,
c'est un petit oiseau qui continue à chanter même en pleine tornade. S'il arrête de chanter, alors on plonge dans cette merde noire qu'on appelle désespoir. Mais ça se soigne, et l'oiseau revient chanter dans la tornade.
Silence.
Certaines personnes, comme Jacopo, naissent sans ce petit oiseau.
Victor a marmonné.
C'était l'emmerdeur le plus sympa que j'ai connu.
Alice a allumé une cigarette.
Ouais, je suis d'accord. C'est fou comme on trouve toujours les gens plus sympas quand ils sont morts.
Comment on fait pour que l'oiseau s'arrête pas de chanter ?
Il faut le nourrir, mon chéri. Ça se nourrit, l'espoir.
Et ça mange quoi ?
De l'amour, toutes sortes d'amour.
Comme quand on aime un chien et qu'il nous aime ?
Exactement. Le meilleur moyen de se faire aimer, c'est d'aimer. Aimer qui tu veux, aimer comme tu veux.
Je t'aime, j'ai dit à Alice, aussi direct qu'une balle de revolver.
Je t'emmerde.
Elle m'a répondu dans sa langue à elle. Puis elle est venue s'asseoir sur mes genoux, ses bras m'ont tendrement enlacé, et je me suis blotti contre son cœur. Quant au mien, j'avais pas réussi à la battre. Alors il allait battre mon cœur battant, pour moi et pour les autres. Dans ma tête, il y a une image. L'horizon s'est fondu en un seul bleu. Le ciel se déverse dans la mer. C'est la vie qui se fait belle pour t'inviter à vivre. La vie me fout la trouille, mais je m'élance. Je me jette au ciel. on dansait avec elle. Une chanson de L'Épée, ce groupe qui réunisse Liminianas, Emmanuel Seigné et Anton Newcombe à la production, accompagné ici de Bertrand Belin. Chanson qui convient si bien, je trouve, à la personne qui était Axel Sandre, avec laquelle il était bon de danser. On se retrouvera tôt ou tard, quelque part, cœur battant. Merci pour tout et surtout, chers auditeurs, chères auditrices, lisez-la, lisez Axel Sandre. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Sullivan Clabot avec l'aide de Tristan Guérin. Encore merci à Clémentine Beauvais, Thibaut Bérard, Claudine Desmarteaux, Renaud Farras, François Perrin et Séverine Vidal pour leur témoignage. Merci aussi à Morane Aubert, Bintou Saint-Poré, Thomas Soulet et Queenie Tassel pour leur voix. La semaine prochaine, je recevrai Jean-Claude Carrière, l'un des plus importants scénaristes du cinéma du XXe siècle, collaborateur de Tati, Buñuel, Milos Forman, Godard ou plus récemment Jonathan Glazer. Jean-Claude Carrière nous délivrera une ample leçon de scénario à l'occasion de la sortie de son ouvrage intitulé Atelier. Bon dimanche, je laisse le dernier mot à Axel Sand.
Il paraît qu'il ne faut pas, se méfier des gens qui ont été déprimés pendant leur adolescence. Donc il ne faut absolument pas se méfier de moi, parce que pendant mon adolescence, je lisais Charles Baudelaire en traînant dans le cimetière, donc tout va bien.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.